Morin.
Le sentez-vous?
Live.
Avec Dominique Morin.
C'est beau à voir.
Radio X.
De l'attente sur Henri IV-Sud à la hauteur des travaux, l'accès au centre-ville également peut être compliqué ce matin. Obtenez 20 ou 30 000 points chez Pharma à prix, une valeur de 20 ou 30 $. Ouvrez l'appli PC Optimum, magasiné et scanné. De vendredi à dimanche, conditions dans l'application.
Mesdames, messieurs, Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu, comment ça va?
Très bien, toi?
Très bien, désolé pour le retard, on va s'ajuster.
Pas de souci.
En fait, c'est un peu comme le référendum, on peut le repousser, puis il n'y a pas d'erreur.
Ben, surtout si on veut être certain de le gagner, quelquefois il est nécessaire de le repousser quelques minutes, puis ça c'est parfait, ensuite on est capable de se parler.
Mais je trouve ça quand même assez particulier de vouloir vraiment la fenêtre idéale, la température idéale, le repas idéal pour peut-être soutirer une majorité avec peut-être une très longue question sur un partenariat quelconque, question de sécuriser les Québécois. Non, 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 ça sera pas la séparation, ça va être un partenariat. On va être encore amis, on va être encore chez nos parents, mais on va être un peu partis, mais on va être un peu encore dans la maison. C'est un peu spécial,
là,
pareil.
Tu mélanges un peu les époques, là. C'est-à-dire que ce dont tu parles, c'est le référendum de 80. C'est-à-dire un référendum sur la souveraineté-association avec un trait d'union entre souveraineté et association. Donc, c'est une époque où les Québécois voulaient accéder à l'indépendance, mais croyaient que l'indépendance devait se passer dans une forme de nouvelle union Canada-Québec. On n'en est plus là aujourd'hui. La raison pour laquelle PSPP reporte son référendum, quoi qu'on en pense, c'est qu'il constate une donnée. C'est la donnée qui change la vie politique un peu partout en Occident depuis quoi, 3 ans maintenant, c'est le phénomène Trump. C'est-à-dire Trump, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas en soi, je précise, c'est pas Trump en soi, c'est l'effet de sidération qu'il a provoqué dans tous les pays occidentaux, une vraie crise de panique, à mon avis une crise de panique exagérée, une crise de panique entretenue par les médias, une crise de panique qui oui. dérègle complètement le débat public, mais le fait est que le résultat est là. Les Québécois, faut se rappeler, depuis quelques années, la période d'indépendance remontait, puis là Trump arrive, puis là il y a une espèce d'effet de sidération, donc beaucoup de nationalistes se disent « aïe, 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 c'est terrifiant, c'est pas le temps de l'instabilité référendaire, c'est pas le temps de se lancer dans la construction de pays, on va se ranger sous les jupes du gouvernement fédéral, version Mark Carney, pour se protéger du grand méchant Trump. » Il y en a d'autres qui disent « ouais, mais là, Trump fait en sorte que ça fait en sorte que dans les sondages, l'indépendance dépasse pas 30, 32, 35%, mettons les bonjours. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Le phénomène Trump oblige les souverainistes à faire une forme de détour stratégique, de reporter le référendum de quelques centaines de jours pour être capable, c'est le pari qui est fait par les indépendantistes, de dire « OK, c'est bon ». Trump nous rend tous fous en ce moment. On aurait pu voir les choses autrement, mais c'est un fait, il nous rend tous fous. Mais dans un contexte un peu plus serein, il sera possible de poser la question nationale de manière plus sereine, plus intelligente, plus claire, sans que tout se vire en espèce de séance Candyman sur le mode Trump, avec l'idée qu'on nous dira que contre Trump, il faut à tout prix le Canada, contre Trump ci, contre Trump ça. Donc, il faut simplement désenclaver la question nationale de la séquence de délire anti-Trump. Et ça, c'est comme ça que je comprends la décision de PSPP, qui, par ailleurs, ne dit pas qu'il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat. Il dit simplement qu'on va le tenir dans un contexte où on a plus de chances de le gagner, ce qui me semble plutôt raisonnable.
Donc, mettons, scénario de gouvernement majoritaire péquiste, Trump est encore ouais. là. Est-ce à dire que pour toi, selon ton optique, et je crois que ça fut déjà exprimé par PSPP, est-ce qu'un gouvernement péquiste majoritaire doit consacrer les 2 premières années de son mandat à la préparation du référendum, c'est-à-dire des audiences publiques, c'est-à-dire des Bélanger Campeau de ce monde un peu partout au Québec. Est-ce qu'on prépare la terre pour la semence?
Mais tu connais la formule de Parizeau qui m'a toujours plu. Moi, on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. C'est-à-dire que quand le Parti québécois prend le pouvoir, s'il prend le pouvoir, eh bien, d'un côté, bon, il doit gouverner. Il existe une telle chose qu'un État provincial québécois, qu'il faut gouverner mieux que la CAQ ne l'a gouverné. Il y a plein de choses qu'on peut faire mieux que la CAQ ne l'a fait. Il y a plein de choses. On peut gouverner différemment l'État provincial. Première chose. Deuxième chose, un référendum, c'est pas un sondage qu'on tient de manière soudaine et inattendue, sans l'avoir préparé un jour de d'octobre ou un jour de mai ou un jour de juin, quand sais-je, sans l'avoir annoncé. Donc, un gouvernement du Parti québécois, dans mon esprit, là, comme je dis, PSPP fera bien ce qu'il veut, mais moi, comme indépendantiste, je comprends la chose suivante. Il prend le pouvoir, bon, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, à partir de là, la transition doit s'amorcer minimalement, c'est-à-dire, il faut voir, donc, les, comme tu dis, un Bélanger Campo bis, la transition économique et financière vers un Québec souverain. Probablement aussi, ça, je pense que c'est important, s'assurer que le vote au référendum ne soit pas déréglé et même soumis au vol fédéral, comme on l'a vu en 95. Comment s'assurer que le processus électoral québécois ne soit pas détourné comme en 95 par Ottawa? Donc, il y a plein de choses à faire pour faire en sorte que quand le référendum se tiendra, il se tiendra dans un contexte, je dirais, optimal pour que les souverainistes puissent l'emporter. Mais, il n'y a pas, puis moi, c'est pour ça que j'ai souvent dit ça, je ne suis pas référendiste, je suis indépendantiste. Donc, si on constate que pour gagner le référendum, il faut d'abord et avant tout redresser l'État québécois un peu. Il faut être capable de sécuriser les mécanismes électoraux ou le vote référendaire. Il faut aussi, il ne faut pas l'oublier, être capable de renouer des alliances à l'étranger pour assurer la reconnaissance d'un Québec indépendant. Mais tout ça prend un peu de temps. Puis je dirais que tout ça a été annoncé depuis un temps par le Parti québécois dans son livre bleu et même dans les discours de PSPP. Oui. Donc moi, ce que je me demande d'où vient cette idée que soudainement PSPP aurait changé. Je pense que c'est Boivin qui a dit ça, Françoise Boivin. La si perspicace Françoise Boivin qu'on peut entendre au mordu, qui dit PSPP change à fait du 180 degrés. Mais de quoi parle-t-elle Françoise Boivin? Tu me répondras peut-être qu'on comprend jamais ce que dit Françoise Boivin, sinon qu'elle est là simplement pour représenter un quota politique. C'est possible. Bon. Tu me diras que Françoise Boivin n'est pas la chroniqueuse la plus intéressante qui soit dans la vie intellectuelle et médiatique québécoise. Je serais d'accord aussi. Il n'en demeure pas moins qu'elle représentait là l'espèce de préjugé médiatique dominant qui consiste à lancer une petite insulte sans être capable de la fonder intellectuellement minimalement.
Question Guy Lepage. Qui tu détestes le plus, Françoise Boivin ou Dimitri Soudas?
Ah, monsieur, c'est pas que je les déteste, c'est que je les apprécie différemment. C'est-à-dire, Dimitri Soudras, je crois, est un garçon intelligent, mais je crois, je me trompe peut-être, qu'il est de mauvaise foi. Parce que s'il n'est pas de mauvaise foi, ça m'amène à réviser ma première affirmation à son sujet. Donc, Dimitri Soudras, trop souvent écrit des textes en chat GPT pour être capable de contredire ses adversaires. J'aimerais le voir écrire sans chat GPT, ça serait intéressant. Par ailleurs, c'est un homme intelligent, je n'en doute pas. Je pense par ailleurs que c'est le type de conservateur que Radio-Canada adore. C'est-à-dire que c'est un conservateur qui n'est pas idéologiquement conservateur. C'est un conservateur qui est toujours occupé à tirer sur le Parti conservateur. C'est un conservateur qui, fondamentalement, aime tirer sur les siens. Et à la fin, c'est un peu comme à l'époque où Marie Grégoire, qui est une femme sympathique par ailleurs, représentait la DQ dans les médias. Donc, c'est le système de représentation radio-canadien. Je note par ailleurs que sur le panel des mordus, si je ne me trompe pas, il y a un souverainiste sur quatre. Ça, c'est Jean-François Lisée, qui est toujours excellent. Mais je crois comprendre qu'il est minoritaire, alors que chez les francophones au Québec, il y a plus de souverainistes qu'il y en a sur le panel des mordus.
je reviens sur les quatre ans potentiels du PQ. Si supposons que tu te retrouves avec un J.D. Vance, ce qui est fort possible, républicain, qui devient président à ce moment-là, toi, est-ce que tu donnes des passes gratuites au PQ tout le temps? Bien là, il faut les comprendre, c'est J.D. Vance, puis là, il est plus protectionniste que Trump. Mais on remet ça on remet ça au calendrier grec et peut-être que entre 22 et 24 degrés, ça serait l'idéal comme température et tout. Est-ce que tu donnes une autre passe gratuite à PSPP pour remettre
encore
une autre
choix? Je distingue des choses, moi, c'est-à-dire que le problème avec Trump, entre guillemets, c'est moins son idéologie, entre guillemets, c'est l'instabilité d'un caractère qui, une journée, te promet des tarifs, le lendemain, retire les tarifs, une journée, envahit l'Iran, le surlendemain, dit qu'il va gagner, le surlendemain, annexe le détroit d'Hormuz, le sursurlendemain, dit qu'il va détruire l'Iran. Le problème, c'est qu'il annonce la paix en Ukraine, la guerre en Ukraine, Donc, le problème avec Trump,
je transforme l'Iran en un parking le lendemain. C'est un changement de régime, c'est extraordinaire. On vient de s'entendre avec l'Iran.
donc voilà, moi, le problème avec Trump, c'est qu'il est fondamentalement, puis moi, j'étais pas de ceux qui étaient les plus sévères à son nom. Je comprenais son élection, mais il est tellement instable psychologiquement ou à tout le moins dans son discours que là, ça crée un élément d'incertitude inattendu. Oui. Ensuite, que ce soit Vance, Rubio ou je ne sais quel démocrate, on peut s'attendre, peu importe qui ce sera, avoir un homme politique à la Maison-Blanche qui sera plus stable, prévisible. C'est-à-dire quelqu'un prévisible, exactement. Donc là, les souverainistes québécois, les indépendantistes, disent pas on fait l'indépendance seulement si on a un démocrate de gauche à la Maison-Blanche. Ils disent pas on attend un républicain classique à la George Bush. Je pense que les indépendantistes disent simplement là, on est avec un cas particulier, on est devant un César devenu Néron, devenu Caligula. Bon, donc on est devant un personnage étrange à la Maison-Blanche, mais une fois qu'il n'est plus là, on va retrouver la part de prévisibilité minimale pour être capable de faire l'indépendance. Puis j'ajouterais, puis ça je l'ai déjà dit avant, je l'ai redit même dans un texte hier, moi, ce qui m'apparaît évident, c'est que le nouveau parti républicain, là je laisse de côté la personnalité de Trump, oui, serait beaucoup plus favorable à la reconnaissance d'un État indépendant au Québec.
Ça, je l'ai tweeté, tu me donnes raison. Trump aurait appuyé le camp du oui juste pour semer la zizanie au Canada.
Et voilà. Mais le problème, c'est que c'est le paradoxe. C'est que Trump fait en sorte que le camp du oui réussissait pas à décoller, mais si le oui décollait, Trump aurait reconnu. Bon, mais là, à un moment donné, c'est pas comme ça que ça va se passer. Alors que moi, je pense que J.D. Vance, par exemple, si c'était lui, mais ça peut être un autre, est plus stable psychologiquement. Et je pense que la donnée centrale ici, ce n'est pas l'idéologie prêtée au président américain, c'est juste être capable d'être d'accord avec quelqu'un qui, dans une même phrase, ne dit pas trois choses, une chose son contraire et une troisième qui contredit les deux premières. Donc, je pense que c'est ça l'élément central. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, la peur de l'élément... Encore une fois, comme je dis, moi, je ne partage pas cette espèce d'opposition de principe à tout ce qui était le trumpisme, mais je constate que la psychologie, la personnalité du personnage rendait la chose compliquée.
L'étoile de la semaine, je pense qu'on doit la donner à Duhem. D'abord, je vais juste terminer. je sais que tu as su le gros gaz, là, Mathieu, là, mais juste. Je vais juste finir.
Vas-y.
Duhem, dévoilement de sa plateforme hier. Il semble avoir été détoxifié par les mainstream médias qui ne le traitent plus comme étant un mini-Trump, etc. Toutes les folies qu'on a pu entendre au cours des dernières années. Il veut nous voler la carte soleil, etc. Je pense que ça, il y a un progrès de ce côté-là. Mais plus que ça, et je pense qu'il a tiré le tapis sous les pieds de PSPP avec une politique nataliste. Ça prend plus d'enfants au Québec. Ça prend plus d'enfants au Québec. Si on critique les seuils d'immigration et si on veut survivre et être pérenne au Québec, on doit faire des enfants. Et le premier qui amène ça, qui ose amener ça sur la table dans cette élection, c'est Éric Duhem. Qu'est-ce que tu en dis de sa politique pour encourager? Mais là, on n'a pas le fin détail. Évidemment, la campagne est à peine commencée, là, mais quand même.
Mais moi, je trouve qu'il a raison de faire sauter l'interdit autour d'une politique nataliste. Oui. C'est une très bonne chose. Premier élément, je note petit désaccord avec toi peut-être que le système cherche à le diaboliser quand même. J'ai lu ce matin l'entretien de, comment s'appelle-t-elle, Christine Fréchette avec Minado.
Mais ça, c'est dégueulasse.
Non, mais c'est une attaque classique pour dire attention, Duhem est mauvais pour les femmes, Duhem est dangereux pour les femmes, Duhem veut renvoyer les femmes dans leur casserole. Donc là, on comprend ce type d'attaque qui vise à faire peur à ce qu'on appelle dans la politique française la ménagère de 50 ans. Donc il s'agit de faire peur aux femmes en leur disant faites attention, il veut vous ramener au casserole. Jamais de la vie, il a dit ça, Duhem. Et je pense que Duhem là-dessus répond à une attente, c'est-à-dire partout dans les sociétés occidentales, on constate qu'il y a un écart entre le nombre d'enfants obtenus puis le désir d'enfant. Donc il y a un écart à combler. Les politiques publiques pourraient servir justement à combler cet écart entre le désir d'enfant et le nombre d'enfants réellement obtenus pour l'instant. Je note, et histoire de rendre justice complètement, c'est Duhem a porté cette idée-là, mais il y a quelqu'un qui intellectuellement porte cette idée-là dans la vie publique québécoise depuis quelques temps, et puis il a été diabolisé pour ça aussi, c'est Étienne-Alexandre Beauregard. Étienne-Alexandre Beauregard, qui est un jeune intellectuel, qui lui a répété souvent la nécessité d'une politique familiale nataliste, et je constate que cette proposition-là trouve enfin de l'écho auprès des partis politiques, et quand les conservateurs en font la promotion, ils ont raison. Tout comme quand ils proposent de dégraisser l'État de manière significative, ils ont raison. Quand Duhem a proposé avec Pouliot de dire qu'il faut sérieusement couper dans l'État québécois, je ne peux qu'applaudir parce que ça nous force à penser autrement qu'en dans les catégories de la technocratie, de la grosse machine qui est irréformable fondamentalement. J'aimerais seulement qu'ils n'oublient pas qu'une chose, c'est que s'il y a trop d'États au Québec, c'est parce qu'il y en a deux.
Ça, je suis content que tu parles de ça. Donc, est-ce à dire que PSPP va devoir parler de rigueur. Donc, l'agenda de rigueur économique, de par le dernier rapport de la vérificatrice générale, nous impose une réalité. Ça, c'est comme la gravité, mon cher Mathieu. Tu peux pas y échapper. T'as beau sauter 4 pieds dans les airs, tu retombes sur le plancher. C'est comme ça. Il y a une réalité qui est non seulement bancaire, mais c'est une réalité qui est essentiel. Tu dois la respecter, la réalité économique. Est-ce à dire que le PQ devra prendre ses distances du credo social-démocrate, qui est inscrit d'ailleurs dans le programme.
Ben moi, je crois que c'est déjà la prise de distance est déjà prise. Je te donne deux exemples. Quand PSPP a été devant la Chambre de commerce de Montréal, et puis ouais, c'est à Montréal ça, puis il a dit, globalement, les subventions aux entreprises, là, c'est terminé cette politique-là. On va miser sur une politique où on va simplifier la vie, on va faire tomber des règlements abusifs, on va baisser les impôts des entreprises, mais cela dit, la politique de subvention généralisée style caquiste, ça ne peut plus tenir. Quand il dit, était-ce hier ou avant-hier qu'il veut faire tomber Santé Québec, mais c'est le simple bon sens que de dire cela. Il nous dit, on a créé une structure qui a dédoublé le ministère de la Santé, puis qui, dans les faits, alourdit bureaucratiquement l'État. Moi, j'ai l'impression que PSPP, en la matière, a déjà amorcé son virage réaliste en matière économique. Et de ce point de vue, il n'est pas... c'est pas le même discours que Duhaime, bien évidemment, on s'entend. Mais il n'est plus du tout dans la culture que j'ai connue au Parti québécois, du tout à l'État systématique de l'État interventionniste dans tous les domaines.
Du quoi qu'il en coûte, comme on dit en France, là.
Oui, oui, c'est ça. Bon, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Je pense que PSPP, pour eux, bon, si on regarde un peu son parcours, c'est un social-démocrate à la Scandinave. Donc, globalement, c'est un social-démocrate qui considère que la condition pour avoir un État social efficace, c'est un, d'avoir des finances publiques qui se tiennent, une économie dynamique et aussi, par ailleurs, stopper l'immigration massive. Parce que si vous avez une immigration massive, vous n'aurez pas d'État social qui va fonctionner.
Exact.
Donc, on est dans une logique qui se tient et de ce point de vue, Duhaime et PSPP à Québec, à tout le moins, oui. Et ailleurs qu'à Québec, s'adressent aux mêmes électeurs, quelquefois. Pas systématiquement, oui. Mais ils reconnaissent qu'il y a un électorat, on pourrait dire, de centre-droit qui existe au Québec et qui a besoin d'être représenté dans le mouvement nationaliste. Je note d'ailleurs qu'il a été capable de débaucher un de tes collègues, si je ne me trompe pas, qui a rejoint le Parti québécois. Mais il sera difficile de dire que le Parti québécois n'a pas de représentant de la droite économique dans ses rangs.
Et ça sera difficile de dire que Radio X est mur à mur conservateur.
Mais on le connaît assez.
Mais je suis absolument d'accord. Moi, j'ai toujours dit que tous ceux qui diabolisent Radio X font des conneries. C'est complètement absurde. Et je constate qu'aujourd'hui, ben, parmi les éléments conservateurs ou appelons de droite, entre guillemets, qu'à Radio X, ben, il y a des souverainistes comme des fédéralistes et des autonomistes. Et je suis heureux de voir que les indépendantistes se manifestent.
Mais il n'est pas venu piger dans notre gueule plus à droite, disons-le.
Oui, il est centre-centre.
Moi, si je peux me permettre, il n'y a pas une tête de gauchiste non plus.
Okay. Mais ça, tu ne l'as pas vu avec son vrai linge. Ouais. Dernière question. L'hymne national, avoue que tu t'es dit, waouh, ça, c'en est une bonne. J'ai pensé à toi quand Duhaime m'a dit, il nous faut une hymne nationale. Même moi, j'ai été quasiment plus dévissé par ça que par le départ de Gary Epi. T'en dis quoi pour terminer?
Ben, franchement, moi, un hymne national, je suis pas con. Moi, j'aimerais juste rappeler qu'à l'origine, on en avait un. C'était le Haut-Canada. Il nous a été volé par le Canada.
Faut juste pas l'oublier. Aussi.
Ben oui, puis Kélix Saint-Gravelé, quand ma mère était jeune, elle allait chanter le Haut-Canada devant les Anglais pas loin de chez elle, parce que c'était une manière de les défier, si je peux me permettre. Donc, vieux souvenir. Ensuite, les Québécois ont adopté une forme de genre du pays qui leur servait d'hymne national temporaire pendant un temps. Je ne suis pas contre du tout. Un Québec indépendant va avoir besoin d'un hymne national. Par ailleurs, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que Duhaime, en ce moment, est en train de récupérer la part autonomiste que la CAQ est en train de renier, ce qui est une bonne chose pour lui. Oui. Permets-moi de compléter néanmoins avec une dernière remarque. Geneviève Peterson, la nouvelle candidate vedette de la CAQ. Geneviève Peterson qui dit qu'au Québec, il y a du privilège blanc. Qu'au Québec, fondamentalement, il est légitime d'exclure les hommes blancs de certains emplois au nom de la diversité. Geneviève Peterson qui disait que Samuel Paty s'est fait décapiter en France en partie parce que c'est un pays qui était sous le signe d'une la montée de la droite et puis pays post-colonial, donc une forme de revanche sociale qui se joue, puis à terme, ça aboutit au terrorisme qu'elle condamne, mais qu'elle explique un peu trop aisément, à mon avis. Geneviève Peterson qui croit que le racisme systémique existe. Geneviève Peterson qui considère que le Québec, sous la CAQ, vivait une forme de dictature identitaire sous le signe de l'unicité blanche. J'aimerais savoir si la CAQ demain, c'est Guillaume Rousseau, c'est Mont-Jean Barrette ou Geneviève Peterson. Chose certaine, la candidate du jour ne semble pas causer problème avec Mme Fréchette avec ses déclarations.
Merci beaucoup. Et ta journée ne fait que commencer, quoi. Il te reste de l'énergie, là.
Oui, il n'y a aucun problème. C'est une excellente journée.
Merci. Salut,
bye.
Wow! Françoise Boivin passe au cash. Soudan, c'est un faux conservateur. Geneviève Boivin, c'est une woke. Et ainsi va la vie.
Ah, puis Geneviève Peterson.
Oui. Il aime Duhaime, par contre. Très positif. Bravo sur sa politique nataliste.
Mais là, arrêtez avec le discours qu'on est allé chercher quelqu'un de droite économique.
Non, je sais, mais ça, je pense qu'il jouait de la. Il dit, il n'a pas tête d'une tête de gauchiste, là. Hein? Mmh. Gary. Oui. Hey, très courte pause. Et on revient dans pas long.
Petite pause.
Morin.
On revient dans pas long.
Live.
Hey, hey, hey.
Radio X.